Donc, Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, hafidahu Allah ta'ala, continue en disant Al-Khamis, et quand il dit Al-Khamis, évidemment, c'est quoi ici? Al-Khamis min furud al-wudu. Il dit Al-Tertib. Il dit Fayajibu ghaslu a'da'i al-wudu ala al-Tertib alladhi ja'a fi l'ayah, wa ja'a fi fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam, fi wudu'ihi, fala yajuzu an yuqaddam ghasl yadayn ala ghasl al-wajh, wa la mas'h al-ra's ala ghasl yadayni, wa hakadha. أما لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى أو الرجل اليسرى قبل اليمنى فإن الوضوء صحيح إجماعا وهو خلاف الأولى. قال الحافظ بن حجر في الفتح في المجلد الأول قال النووي رحمه الله تعالى قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدهما استحب فيه التياسر. قال وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. ثم نقل عن ابن قدامة في المغني أنه قال لا نعلم في عدم الوجوب خلافا. Qu'est-ce que nous dit ici Cheikh Al-Masil Abbad? C'est un point assez important. Et on parle de quoi donc du cinquième parmi ce qu'on appelle furud al-wudu. D'accord? Eh bien le cinquième c'est quoi? At-tertib, l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Cheikh Ahmed Al-Mahsil Abbad nous explique donc le matn de Cheikh Mohamed Al-Wahhab, rahimahullah, parce que c'est le livre de base, c'est quoi? C'est qui l'a écrit? C'est Cheikh Al-Islam Mohamed Al-Wahhab, expliqué par Cheikh Ahmed Al-Mahsil Abbad, qui est un contemporain, qui est toujours vivant, qui est parmi les grands savants contemporains, qui enseigne encore jusqu'au jour d'aujourd'hui à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Hein? Et il nous dit, il est obligatoire de laver les membres inclus dans les ablutions dans l'ordre cité dans Surat Al-Ma'ida. Et en vérité, le Cheikh a dit ici quoi? Fil ayah, dans le verset. Mais moi j'ai dit dans Surat Al-Ma'ida, pourquoi? Pour vous rappeler dans quelle surat on peut trouver le verset de où les ablutions sont décrites. Naam. Et on avait dit quoi? Est-ce que les ablutions sont décrites dans le Coran ou dans la Sunna uniquement ou bien dans les deux? Dans les deux, naam. On avait dit quoi? Et dans la Sunna? Donc le Coran et la Sunna. Et dans la Sunna, que par sa parole, alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Par sa parole et ses actes. Et on avait vu les preuves là-dessus. Hein? Donc ici, le Cheikh nous dit que quoi que, il est obligatoire de laver les membres inclus dans les ablutions dans l'ordre cité dans Surat Al-Ma'idah. Et dans l'action du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lors de ses ablutions. Hein? Il est interdit de faire passer le lavage des mains avant le lavage du visage. Ou l'essuyage de la tête avant le lavage des mains, etc. Tandis que si on lave la main gauche avant la main droite, ou le pied gauche avant le pied droit. Alors question ici, est-ce que vous pensez que les ablutions sont correctes ou pas correctes? Elles sont correctes, oui. Elles sont correctes, naam, c'est juste. Les ablutions sont correctes avec consensus des savants. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de divergence, ce qu'on appelle un ijma'. Hein, et qu'il n'y en a pas un qui vienne vous dire le contraire. On ne peut pas aller à l'encontre de l'ijma. Ok? Donc, si quelqu'un vous demande, ou ça vous arrive un jour, que vous fassiez votre main droite, votre main gauche, pardon, avant votre main droite, ou votre pied gauche avant votre pied droit, est-ce qu'on a le droit d'avoir un doute à ce moment-là? Non. Les ablutions sont correctes ou pas? Oui. Est-ce qu'il y a divergence? Non. Il y a ijma, il y a consensus des savants, d'accord? Mais le cheikh dit ici, il rapporte un point important, il dit « Mais c'est moins bien que de commencer par la droite. Hein? » Comme il dit le cheikh ici dans le texte en arabe, « Fatahul fadl. » C'est-à-dire qu'il y a évidemment la droite à préséance, c'est mieux, bila shak. Hein? Il y a un hadith qui est rapporté dans le Bukhari au Muslim, rapporté par Aïcha radiallahu anha, qui dit « Que Rasulallah kana yuhibbu tayammuna fi sha'nihi kulli. » Les ulama, ils ont expliqué c'est quoi, chez sha'n, c'est toutes les bonnes choses. Hein, qu'il aimait utiliser la main droite pour les bonnes choses. Et c'est ce qu'on va voir ici justement, c'est assez important, c'est la parole de l'imam An-Nawawi, rapportée par qui? Par Al-Hafid ibn Hajar dans Al-Fath. Alors qu'est-ce qu'Al-Fath? L'explication de Sahih al-Bukhari qui s'appelle Fath al-Bari. Donc Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullah alayh, il dit dans Al-Fath, volume 1, page 270, An-Nawawi a dit, donc c'est Ibn Hajar qui cite qui? An-Nawawi. Hein? Donc Nawawi rahmahullah, qu'est-ce qu'il nous dit ce grand imam? Il nous dit la règle de la religion, qa'idatu shar'i al-mustamirra, constante, la règle de la religion, cette règle constante, c'est quoi? C'est la préférence de commencer avec la droite dans tout ce qui est chose noble, hein, ou un embellissement, comme par exemple quoi? Le fait de, comme dans le hadith, dans le début du hadith que vous citez dans le Bukhari au Muslim, c'est fita na'ulihi wa tarajulihi, c'est-à-dire même dans le fait de se peigner, de mettre ses sandales, etc. Hein? Tu commences par la main droite, enfin, tu le fais par la main droite, avec la main droite. Et dans le contraire de cela, il est préférable de faire avec la gauche. Dans les choses nobles, il est préférable de faire avec la main droite, et en dehors de ces choses-là, il est quoi? Il est préférable de faire avec la gauche. Il dit ensuite, c'est qui évidemment? An-Nawawi rahimahullah. Les savants sont unanimes. Hein? Les savants sont unanimes. Ajma'a al-ulama. Sur le fait que faire précéder la droite dans les ablutions est une sunnah. Celui qui ne le fait pas a délaissé, comme je l'ai dit, ce qui a préséance, ce qui est préférable, et ses ablutions sont correctes. Naam. Il a ensuite rapporté une parole de l'imam Ibn Qudama. C'est qui a rapporté la parole d'Ibn Qudama? Al-Hafid ibn Hajar al-Fath. Dans Al-Mughni. C'est un livre qui va revenir systématiquement dans nos cours de fiqh, hein, dans les citations. Pourquoi, à votre avis, dans les références? Parce que c'est simplement une référence, un ouvrage de référence. C'est Al-Mughni, retenez le nom, Al-Mughni d'Ibn Qudama. D'accord? Donc qu'est-ce que nous dit Ibn Qudama dans Al-Mughni, qui est cité par Ibn Hajar ici dans le Fath? Nous ne connaissons aucune divergence dans le fait que ce n'est pas obligatoire. Ça veut dire quoi? Obligatoire de commencer par la droite. Et ça va exactement dans le sens de ce qu'a dit qui? Al-Imam Nawawi. D'accord? Donc ici, Cheikh Al-Mahsin Al-Abbad continue. Il dit وَقَدْ اِسْتَدَلَّ الشَّيْخ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْتَرْتِيبِ بِحَدِيثِ اِبْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ قال صلى الله عليه وسلم ذلك عندما بدأ بالصفاء في سعيه والحديث بلفظ الأمر جاء في سنن النسائي وفي صحيح مسلم بلفظ الخبر وهو من حديث جابر الطويل في صفة حجه عليه الصلاة والسلام وفيه فلما دنا من الصفاء قرأ إن الصفاء والمروة من شعائر الله أبدأوا بما بدأ الله به فبدأ بالصفاء ف رقي عليه حتى رأى البيت وانظر إرواء الغليل يعني دي الشيخ الألباني évidemment. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Al-Mahsin Al-Abbad ici? Il dit que le Cheikh, c'est qui ici? Mohamed Al-Wahhab, a utilisé comme preuve pour l'ordre, hein? Parce que c'est le cinquième parmi Furud al-Wudu. Mais évidemment, il y a une preuve à cela. Quelle est la preuve de cela? Eh bien, il a utilisé le hadith commencer par ce quoi Allah a commencé. Évidemment, c'est la traduction du sens du hadith. Commencer par ce quoi Allah a commencé. Et quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela? C'est important de connaître ce qu'on appelle le sabab wurud de la hadith. Quand le hadith a été rapporté et pourquoi il a été rapporté? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela lorsqu'il a commencé par As-Safa dans le Sa'i. Qui sait m'expliquer c'est quoi le Sa'i? Hein? D'accord, c'est juste, non? Ouais, c'est exactement ça. C'est entre quoi? Entre Safa et El Marwa, qui sont deux petits monticules, deux petites montagnes, si vous voulez, d'accord? Et que tu fais quoi? Tu fais, comme tu as dit, l'aller-retour. Donc tu commences par Safa et tu termines par, évidemment, parce que c'est un chiffre impair, par El Marwa. Naam barakallahu fi. Donc c'est quoi ici? C'est que le prophète a dit cela lorsqu'il a commencé par As-Safa. Il a dit commencer parce que Allah a commencé. Pourquoi, à votre avis? Parce que dans le verset du Coran, Allah commence par As-Safa. Inna As-Safa wal Marwata min sha'airillah. D'accord? Donc, et le hadith ici, il est avec le verbe impératif. Commencez. Ibda'u. Hein? Et ce verbe impératif, cette narration avec le verbe impératif, est rapportée dans Sunan Nasa'i. Si vous voulez le numéro, je vous conseille de revenir à Sunan Nasa'i, numéro 2962. Et dans Sahih Muslim, numéro 2950, mais non pas avec un verbe impératif, mais avec ce qu'on appelle lafd al-khabar. C'est-à-dire que c'est une information. Hein? D'accord? Et c'est selon hadith, le fameux hadith de Jabir ibn Abdullah, qui a décrit qui? Quoi? Le pèlerinage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Jabir ibn Abdullah, il a décrit dans un long hadith le pèlerinage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et qui sait me dire quel savant contemporain a écrit un petit livre où il reprend en se basant sur ce hadith-là? Cheikh l'Albani, rahmatullah alayhi wa sallam. Comment il a fait la description de la salah, que tout le monde connaît, la description de la prière, sifatul salah, il a fait la description de l'hajj. Kamarawaha Jabir, c'est ça le titre complet, comme Jabir l'a rapporté. Et c'est la méthodologie d'Al Hadith, c'est se baser sur quoi? Le Hadith pour le Masa'il. Akum salam. Et donc dans le Hadith, lorsqu'il s'approcha dans ce Hadith-là, dans son fameux long Hadith, lorsqu'il s'approcha de As-Safa, il récita, qui évidemment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, As-Safa et Al-Marwa, et c'est la traduction approximative du sens de la parole d'Allah. As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Surat Al-Baqarah, verset 158. Et il dit, je commence par ce quoi Allah a commencé. Est-ce que c'est un khabar ou un verbe impératif? C'est une information ou pas? D'accord, donc là on a compris ce que le shikha voulait dire ici. Dans une riwaya il a dit, Ibda'u, et dans une autre riwaya il a dit, Abda'u. Donc dans une riwaya il a dit, commencer, donc c'est sa parole, c'est un ordre, et dans l'autre, je commence, il nous informe sur le fait qu'il a commencé, donc de son action également. Il commença alors par As-Safa, sur lequel il monta jusqu'à ce qu'il voit Al-Bayt. Et si vous voulez plus de détails, revenez à Irwal Ghalil de Cheikh Al-Albani et sa livre qu'on cite de manière récurrente également. Donc je vous conseille vivement de l'acheter, il existe en 9 tomes, et Cheikh Saleh Ali Cheikh Hafidahullah a terminé le livre. Il a fait le 10e tome qui s'appelle Tekmil. Et c'est un livre en fait dans le fiqh, dans le madhab al-Hanbali, que Cheikh Saleh maintenant en fait dans le madhab al-Hanbali. Et Cheikh Al-Albani l'a retravaillé en fait. Et les ulama l'ont beaucoup remercié pour ce travail-là d'ailleurs. Irwa al-Ghalil. Irwa ou al-Ghalil. Le sens de sa parole, je commence par ce quoi Allah a commencé. C'est qu'Allah, lorsqu'il a cité As-Safa et Al-Marwa, a cité As-Safa avant Al-Marwa. Ce avec quoi Allah a commencé en parole dans le verset, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a commencé avec en action dans le sa'i. D'accord? Et c'est ce que nous dit le cheikh ici. وَمَعْنَ قَوْلِهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ أَنَّ اللَّهَ لَمَّا ذَكَرَ الصَّفَى وَالْمَرْوَى قَدَّمَ الصَّفَى عَلَى الْمَرْوَى فَمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ذِكْرًا بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّعِي فِعْلًا. Donc ce que Allah a commencé dans la citation du verset, dans sa parole subhanahu wa ta'ala, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a commencé dans son action, il a commencé par As-Safa. Pourquoi on a rapporté tout ça évidemment? Wajl istidlal, comme on dit avec ça, avec ce hadith-là, parce qu'il y a le dalil, mais il y a ce qu'on appelle wajl istidlal. Donc on rapporte un dalil, mais pourquoi? Comment est-ce qu'on comprend que ce dalil-là, c'est une preuve dans l'obligation de l'ordre? Ben, c'est évident. Commencer par ce qu'Allah a commencé. Or que dans surat Al-Ma'ida, Allah a commencé par certaines choses, donc on doit commencer par ces choses-là. Vous avez compris? Et avec ça, on a terminé le cinquième point, le cinquième fard. Al-fard al-sadisu al-mu'alat. Ce qu'on pourrait traduire de manière vraiment très littérale, le suivi, et on va voir c'est quoi le mu'alat exactement. Wahoua, Cheikh Al-Mahsal Abad nous explique, wahoua an-yuwaliya bayna al-a'da'i fil ghasli fala yaghsilu ba'daha thumma yanshaghilu 'an al-istimrari fil wudu illa idha kana al-inshighalu li'aridin yasirin ka fathi babin qarib fa innahu la yu'athir. ويدل لوجوب الموالاة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى أخرجه مسلم. وحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر درهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. والحديث أخرجه أبو داود وانظر إرواء الغليل لشيخ الألباني رحمه الله. ووجه الاستدلال كيسكو جو فيديو افون فوي وجه الاستدلال كومون يوتيليز لو دليل من هذين الحديثين على وجوب الموالاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أبصر على قدمه شيئا لم يصبه الماء بغسل ذلك الذي لم يصبه الماء، بل أمره بإعادة الوضوء، ولو كانت الموالاة غير واجبة كفاه أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء. Ça c'est un point également important et c'est le sixième des furud parmi les furud wudu. Cheikh nous dit, Al-Abbad hafidahullah, que dans le lavage des membres, hein, il faut qu'il se fasse avec, si vous voulez, constance, suivi, l'un après l'autre, sans commencer un membre et puis s'occuper avec autre chose et ne pas continuer les ablutions. Hein? D'accord? Donc, tu commences les ablutions puis tu vas faire quelque chose. Hein? Quelque chose qui prend du temps et qui te coupe complètement des ablutions, et puis tu reviens et tu termines tes ablutions. D'accord ? Mais à ce moment-là, tu ne peux pas. D'accord ? Non, on va voir, la réponse, elle est dans le hadith, elle est claire, tu vois. Le cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Il fait une exception, il dit, sauf si ce qui nous occupe est léger. Hein, quelque chose de léger, de vite fait. Comme par exemple, le cheikh donne un exemple très concret, il dit quoi ? Comme le fait, par exemple, d'ouvrir une porte. Hein, tu fais des ablutions, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, tu l'ouvres vite la porte, tu continues des ablutions. Hein? Ça n'affecte pas, si tu veux, quoi, ce suivi dans les actes. D'accord ? Ça, c'est important de savoir ça. Hein? Eh bien, cheikh, il dit ici, il n'y a aucun mal à cela. Et la preuve de l'obligation de ce suivi, et là, tu vas voir ta réponse à ta question, c'est le hadith de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qu'Allah l'agré, qu'un homme a fait ses ablutions et a laissé une partie de son pied de la taille d'un ongle sans être touché par l'eau. Le prophète sallam l'a vu et lui dit, retourne et fais bien tes ablutions. J'ai eu ta réponse. Fais bien tes ablutions. Rapporté par Muslim, hadith numéro 243. Et le hadith également, donc une autre preuve, le hadith également d'un homme parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a vu un homme prier alors que sur son pied il y avait une partie de la taille d'un dirham qui n'avait pas été touchée par l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de recommencer ses ablutions. Encore une fois, tu as eu ta réponse. D'accord ? Ça va ? Pourquoi ? Parce que l'ordre, c'est une obligation. Donc, et tu vas voir, pourquoi on a utilisé ça? Tu vas dire, mais comment est-ce qu'on va utiliser ce hadith avec une petite partie qui manque? C'est tout simplement par le fait que, exactement, tu dois tout recommencer, parce que si tu ne veux pas recommencer, il aurait suffi que tu fasses juste l'endroit que tu n'as pas bien fait. Exactement. En fait, on parle du suivi de manière constante, d'accord? Ah, on a parlé de changement de niya, d'accord? Ici, maintenant, c'est quoi? C'est le fait, en fait, si tu veux, l'interruption conséquente, qui n'est pas, hein, quelque chose de yassir, le mot en arabe, qui est bon, d'accord? Quelque chose qui n'est pas léger, c'est quoi? C'est, par exemple, le cheikh a expliqué, c'est quoi le fait de léger? C'est que, par exemple, tu ouvres la porte quand quelqu'un frappe à la porte. C'est quelque chose de vite fait, d'accord? Qui ne va pas affecter, si tu veux, cet ordre-là, ce suivi-là, cette constance-là, dans les ablutions. D'accord ? Et tu vas bien le comprendre quand le cheikh ici va expliquer c'est quoi wajh l'istidlal. Parce que, et c'est vrai, subhanallah, regarde le fiqh des ulama. Comment ils ont été chercher le dalil du suivi de la constance dans ces deux hadiths-là ? Tu vois ? C'est là le fiqh. C'est quoi ? C'est que le prophète, donc, je répète ce que j'avais dit, a vu un homme prier alors que sur son pied il y avait une partie de la taille d'un dirham qui n'avait pas été touchée par l'eau. Le prophète lui a ordonné de recommencer ses ablutions. De recommencer ses ablutions. Et sa prière. Pourquoi sa prière? Parce que ses ablutions ne sont pas correctes. Mais qu'est-ce qui se passe? La prière n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que les ablutions sont une des conditions de la prière. Vous voyez que tout se tient. Hein? Et ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud, numéro 175. Et le cheikh renvoie à Irwa al-Ghalil, de Cheikh l'Albani, numéro 86. Ça sera dans le premier volume, normalement. Hein? Hadith de Omar al-Khattab, Sahih Muslim, et je cherche le numéro 243. Ces deux hadiths sont des preuves sûres l'obligation du suivi, de la constance, si vous voulez, hein, dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné à celui dont il a vu qu'une partie du pied n'avait pas été touchée par les ablutions, de laver ce qui n'a pas été touché par les ablutions, hein, par l'eau plutôt, mais lui a commandé de recommencer les ablutions complètement. Si le suivi, hein, si vous voulez, la constance dans les ablutions, hein, n'était pas obligatoire, il lui aurait suffi de laver la partie qui n'avait pas été lavée. Donc vous avez vu où je l'ai dit avec les deux hadiths? Comment c'est que ces deux hadiths-là, hein, ces deux hommes-là qui avaient une petite partie de leur corps qui n'était pas touchée par l'eau, eh bien ils ont dû recommencer leurs ablutions. D'accord? Eh bien ça c'est la preuve que quoi? Que il faut suivre, il faut cette constance-là et se suivre dans les ablutions. D'accord? C'est-à-dire les membres l'un après l'autre. Et avec ça, on a fini ce qu'on appelle furud al-wudu. Et maintenant, on va rentrer dans ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est hukm al-tasmiyati fi al-wudu. Qawluhu, évidemment, c'est la parole de Cheikh Mohamed al-Wahhab dans le matn, wa wajibuhu at-tasmiyatu ma'a adh-dhikr. Hada ahad al-aqwali fi al-mas'ala, wa huwa riwayatun 'an al-imam Ahmad, wa man qala bihi al-Hasan wa Ishaq. Wa al-qawl al-thani anna at-tasmiyata mustahabba, wa huwa qawlu jumhur al-'ulama wa ihda ar-riwayatayn 'an al-imam Ahmad. ذلك ذكر ذلك في المغني إذا ما ذكر المغني ابن قدامة وقد ورد في التسمية في الوضوء حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه حسن وقال وقد قواه الحافظ المنذري والعسقلاني وحسنه ابن الصلاح وابن كثير العراقي انظر إلى رواء الغليل واختيار الشيخ القول بالوجوب مع الذكر فيه الاحتياط والخروج من الخلاف ونظير ذلك ما قاله رحمه الله تعالى في أدب المشي إلى الصلاة وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Al-Masih Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala? Ici, on rentre dans le jugement du fait de dire la basmala dans le wudu, hein, At-Tasmiya. Hein? Cheikh Mohamed Al-Wahhab dit l'obligation des ablutions est la Tasmiya. Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, nous explique ce que ça veut dire. C'est l'un des avis, l'une des opinions. Et je vous avais dit qu'évidemment, dans le point de fiqh ici, il y a des points où il y a ijma'a, comme on a vu dans la parole de Nawawi et d'Ibn Qudama. Hein? Et il y a des points, il y a divergences. D'accord? Et notre méthodologie ici avec le livre, c'est de ne pas rentrer trop dans les divergences justement. On se limite à ce qu'a dit quoi? Cheikh Mohamed Al-Abbad. Et avec ça, c'est plus facile pour nous en tant que débutants. Pourquoi? Pour se limiter à un avis. Cheikh Mohamed Al-Abbad, c'est un grand savant. D'accord? Il nous rapporte un avis. Hein? Il nous rapporte quelques avis, mais il rapporte à la fin son avis et un conseil toujours dans la divergence. Eh bien, on suit cet avis-là, on suit ce conseil-là dans la divergence. Et, alhamdoulilah, inshallah, plus tard, quand on aura plus de bases dans les sciences religieuses, à ce moment-là, on sera à même apte de quoi de faire ce qu'on appelle tarjih bin al-masail al-fiqhiyya, al-khilafiyya. D'accord? On sera à ce moment-là à même de voir nous-mêmes quels sont les avis les plus forts. Mais nous, c'est une méthodologie que je conseille vivement, c'est quoi? C'est de se limiter à cet avis-là. Et c'est pour ça qu'on ne va pas rapporter des. Et il y a certaines choses, hein, comme le tertib, que par exemple, ce n'est pas mon avis. Moi, je suis l'avis de Charles Albani là-dessus, tu vois? Hein, d'accord? Mais on ne va pas rentrer quoi? Dans ces choses-là, on se limite à ce que dit Cheikh Al-Abbad, c'est ce qu'on avait dit dès le début, d'accord? Cheikh Al-Abbad dit, c'est l'un des avis, l'une des opinions sur ce point des jurisprudences. Et c'est l'une des narrations rapportées de l'imam Ahmed, d'accord? Rahimahullah. Et c'est l'avis d'Al-Hassan et Ishaq. Le deuxième avis, donc on va dire qu'il y a un deuxième avis, c'est quoi? Et que ce n'est pas obligatoire le fait de dire Bismillah, mais mustahab, préférable. Alors évidemment ici, il convient de faire quoi? Une définition du wajib et du mustahab. C'est un istilah shar'i qu'on se doit de connaître. Et si vous regardez dans les livres de Cheikh Al-Uthaymeen dans Usul al-Fiqh, vous allez voir que le wajib, il est défini comme quoi? Comme si tu t'en acquittes pour Allah, eh bien, tu es récompensé. Et si tu t'en acquittes pas, qu'est-ce qui se passe? Tu es en état de péché. C'est ça le wajib. D'accord? Le mustahab, c'est quoi? Si tu le fais pour Allah, tu es récompensé évidemment. Hein? Parce que tu as fait quelque chose de préférable, on peut le traduire par préférable, et l'autre, le wajib, par obligatoire. Hein? Mais si tu le délaisses, tu n'es pas en état de péché. D'accord? Et le wajib, si vous voulez, il fait opposition, il fait de manière opposée à quoi? Al-manhi anha. Et al-mustahab ou makruh. C'est les deux, si vous voulez, c'est les deux qui sont quoi? En correspondance. D'accord? Le wajib avec al-manhi anha et le mustahab avec al-makruh. Ça va? On revient à la parole de Cheikh Al-Abbad. L'opinion selon laquelle la tasmiya est préférable est l'avis du jumhur des ulama, de la majorité des savants. Et l'une des deux narrations rapportées l'imam Ahmed. D'accord? Or, on voit que l'autre avis, il y a une riwayo, c'est l'imam Ahmed. Hein? Donc, on voit que quoi? Qu'il y a deux rapports, deux narrations rapportées l'imam Ahmed. Ceci est rapporté dans Al-Mourni, d'Ibn Qudama, volume 1, page 145. Il y a un hadith qui est rapporté en fait dans le fait de dire Bismillah lors des ablutions, dont la traduction approximative est pas d'ablution pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud, donc si vous voulez voir le sharh de Un al-Ma'boud, numéro 101, et d'autres d'après une narration de Abu Huraira radiallahu anhu arda. D'accord ? Cheikh, maintenant on va rentrer un peu au Mustalah al-Hadith, et là je voudrais faire une nasiha très importante, c'est que Mustalah al-Hadith. Je n'aime pas traduire les termes. Parce que comment tu vas traduire Hassan? Comment tu vas traduire Jayid? Comment tu vas traduire Qawi? Comment tu vas traduire Sahih? Comment tu vas traduire Hassan ou Sahih? Comment tu vas traduire et faire la différence entre tout cela après? Alors que le Hassan, il rentre dans le manière générale dans le Sahih. Et le Sahih aussi, mais le Sahih, c'est pas le Hassan. Le Hassan, c'est pas le Sahih. Hein? D'accord? C'est pour ça qu'ici, toujours, on va se limiter à la terminologie en arabe. Parce qu'il faudrait une définition pour chaque terminologie en fait. Et donc il faudra un cours dans le Mustalah. C'est quoi ici? C'est que Cheikh Al-Albani a déclaré ce hadith Hassan. Hein? Et a dit Al-Hafid Al-Mundhiri et Al-Asqalani l'ont jugé Qawi, fort. Qawi, hein? Traduction fort, c'est vraiment une traduction qu'il faut prendre avec des pincettes. On va laisser ça Qawi. Et il a été rendu Hassan par Ibn Salah et Ibn Kathir et Al-Iraqi. Si vous voulez plus de détails, revenez à Cheikh Al-Albani, le livre de Irwal Ghalil, numéro 81. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Al-Abbad? Il termine en disant le choix de Cheikh Mohamed Al-Wahhab. Parce qu'évidemment, Cheikh Mohamed Al-Wahhab, il a fait un choix dans ses opinions-là. Et c'est ce qu'on voit dans son matn. Parce qu'il a dit Wujub al-Tasmiya. Wujub al-Tasmiya. L'obligation de la Tasmiya. Donc on voit que quoi? Que Cheikh Mohamed Al-Wahhab, il a l'avis que c'est obligatoire. D'accord? Ou en tout cas, Wajibuhu al-Tasmiya. Le wajib de la désablution, c'est quoi? C'est la Tasmiya. Le choix de Cheikh Mohamed Al-Wahhab, l'avis que c'est obligatoire, et c'est un avis prudent. Il a dit Fihi al-Ihtiyat. Hein? C'est ce qui est le plus prudent. Et nous fait sortir la divergence. Ceci à l'image ou à l'exemple de ce qu'il a dit dans l'ouvrage. Regardez Cheikh comment il va chercher dans un autre livre de Cheikh Mohamed Al-Wahhab pour nous faire comprendre le choix de Cheikh Mohamed Al-Wahhab. Et bien un autre livre qui pourrait être parmi les livres qu'on pourrait faire après celui-là qui s'appelle Adab al-Mashi ila Salah. Les préséances, les bienséances, si vous voulez, Afwan, à respecter lorsqu'on se dirige vers la prière. Hein? Eh bien, Cheikh Mohamed Al-Wahhab, dans ce livre-là, il nous dit quelque chose. Et vous allez comprendre directement la correspondance entre les deux. La takbira de l'ihram. C'est quoi la takbira de l'ihram? C'est la takbira, la première takbira, la première parole, Allahu Akbar, dans la prière, avec laquelle tu rentres dans la prière. Et tu vas sortir de cette prière par le teslim. Faites dire salam alaikum. Ah, rahmatullah, d'accord? Eh bien, Cheikh Al-Abbad, on va voir ça plus loin dans ce même livre-là, ici. Il va expliquer pourquoi on appelle takbir al-ihram. Eh bien, parce qu'il y a des choses qui deviennent haram pour toi quand tu fais takbir al-ihram. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas manger. Il y a des choses, comme dans l'ihram d'ailleurs. Hein? Il y a des choses qui deviennent haram pour toi. Tu rentres dans un état particulier. D'où la raison de t'assumer le takbir al-ihram. D'accord? Mais retenez que c'est quoi? Le premier Allahu Akbar, le premier takbira. Tout le monde sait c'est quoi un takbir ou un takbira, d'accord? Première takbira lors des prières. Qu'est-ce qu'il nous dit Cheikh Mohamed Al-Wahhab, rahimahullah, la takbira de l'ihram suffit à takbira de ruku'. Donc on dit Allahu Akbar quand on entend la prière, et puis évidemment quand on fait ruku', on dit quoi? Allahu Akbar. Hein? Maintenant, si j'arrive, et on va voir ce qu'il dit ici, car cela a été pratiqué par Zayd ibn Thabit et ibn Omar. Pourquoi Cheikh rapporte ça? Que ça suffit à l'autre alors qu'on est obligé de faire les deux? Dans quel cas vous croyez que ça? Ça pourrait être ce qu'a rapporté le cheikh ici. Non, dans le retard, évidemment. D'accord? C'est que ça a été pratiqué par Zayd ibn Thabit, Ibn Omar. Et personne n'a rapporté le contraire de cela. Et le fait de le faire, le takbir d'inclinaison, est meilleur pour sortir la divergence. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que si tu fais le takbirat l'ihram, ça suffit normalement pour les deux. Mais c'est quoi le mieux à votre avis? C'est de faire les deux. Tu fais ta takbirat l'ihram et tu fais takbirat rukwa. Pourquoi? Car c'est meilleur pour sortir la divergence et ne pas aller à l'encontre de l'avis de celui qui le rend obligatoire. On sort du doute, on sort de la divergence. On prend ce qu'il y a de quoi de plus sûr pour notre religion. Et ça me rappelle autre chose. Les ulémas divergent. Certains disent que tu fais, par exemple, quand l'imam il dit salam alaykoum à droite, dans la prière, il fait le teslim à droite, tu peux sortir de la prière. Parce que c'est ce qui est wajib. Et d'autres ulémas disent non, tu attends qu'il fasse les deux. Parce que tu es obligé d'attendre que l'imam, quoi. Tu es obligé de suivre l'imam dans tout. Qu'est-ce que disent certains mashaykhs? Ils disent c'est quoi le mieux pour toi? Et on va le voir, Inch'Allah, de Sheikh Al-Abed, on va le rapporter dans ce livre. C'est du mieux d'attendre les deux. Tu vois? Pourquoi? C'est ce qui est mieux pour toi, pour ta religion. Sur l'ihtiyat, l'ahwat, on appelle ça al-ahwat en arabe. Sur ce qui est le plus sûr. D'accord? Et ça, c'est pour ça que je dis qu'on va toujours suivre les conseils de Sheikh Al-Mahdi Al-Abbad. Et ça pourrait rappeler un autre cas. La Fatiha, derrière l'imam dans une salat zahariya. Tu la lis ou tu la lis pas? Grande divergence entre les savants. C'est quoi le mieux? Sheikh Mohammed Amal Jami dit c'est que tu la lis, c'est mieux. Il dit, je conseille, dit pourquoi? Parce que ça va avec l'authenticité de ta prière. Parce que le Fatiha, c'est quoi? C'est un pilier dans la prière, parmi les piliers de la prière. D'accord? Et maintenant, avec ça, on a fini le jugement sur quoi? Sur la tasmiya dans les ablutions. On commence maintenant, nawaqid al-wudu. Est-ce que vous suivez? On a vu quoi? Il y a 9 conditions dans la prière, d'accord? On est toujours dans les conditions de la prière. Mais on a fait un, c'est quoi? Premier? L'islam. Deuxième? Dans l'ordre, sûr. C'est pas tamiz. Non. C'est l'aql, c'est juste. L'aql, la raison. Troisième, tamiz. C'est quoi là? Là, on peut appeler ça l'âge de distinction, d'accord? Et quatrième, c'était quoi? Raf al-hadath. C'est pour ça qu'on est rentré dans les ablutions. Ah, on est rentré dans les ablutions. Donc l'organigramme, il est là. Quatrième condition de la prière, hop, on est rentré dans les ablutions. Raf al-hadath. C'est quoi les ablutions? Ah, on va voir les conditions de les ablutions. Combien il y en a? Shurut al-wudu? Shurut al-wudu? 10. D'accord? Shurut al-wudu, on les a finis, alhamdoulilah. On est rentré après dans quoi? Furud al-wudu. On y en a combien? 6. On les a finis aujourd'hui, alhamdoulilah. On a vu qu'il y avait un wajib. C'était quoi? La tasmiya, selon la vie de Cheikh Mohammed al-Wahhab, évidemment. C'est quoi? On l'a vu aujourd'hui. Donc maintenant, on rentre dans quoi? Nawaqid al-wudu. Ce qui annule les ablutions. Les annulations des ablutions. Cheikh Mohammed al-Wahhab dit Qawluhu wa nawaqiduhu thamaniya. Donc comme il y avait 10 conditions, il y avait 6 furud, il y avait un wajib, il y a combien? 8 nawaqid, 8 annulations des wudu, des ablutions. Wa nawaqiduhu thamaniya. الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وإزالة وزوال العقل ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبورا وأكل لحم الجزور والتغسيل الميت والردة عن الإسلام أعادنا الله من ذلك. Je vous traduis de manière très littérale et toujours je vous dis que dans la traduction du matn, on traduit de manière littérale et après on va voir qu'est-ce que ça veut dire dans l'explication de Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah. Eh bien, le maître nous dit, elles sont au nombre de 8. Ce qui sort des deux orifices, qui sont connus évidemment, ce qui sort du corps impur, et on va voir que c'est en grande quantité, il va parler en fait du sang. La perte de la raison, toucher une femme avec désir, passion, et on va voir que c'est les divergences, les avis, etc. Le fait de toucher le sexe de la main, d'accord? Le fait de manger la viande de chameau, le lavage du mort et l'apostasie, le fait de sortir de l'islam, wa'yadou billah, qu'Allah nous en préserve. Donc, Cheikh dit qu'on cherche refuge auprès d'Allah contre cela. Il dit awwalu nawaqid al-wudu, le premier parmi nawaqid al-wudu, c'est quoi? Al-kharij min as-sabilayn. Wa huwa kullu kharij minhumā min gha'itin aw bawlin aw rihin aw damin aw maniyin aw madhin aw ghayri dhalik. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. C'est quoi le premier? On a déjà fini la première annulation. Vous allez voir que c'est facile, c'est court et c'est très très intéressant. Première parmi les annulations de l'oudou. Eh bien, c'est quoi? C'est ce qui sort des deux orifices, l'orifice à l'avant et à l'arrière qui sont connus, et c'est toute chose qui sort de ces deux orifices comme par exemple des excréments, ou de l'urine, ou du vent, ou du sang. Donc ne croyez pas que c'est que les excréments. Même du sang qui sort des deux orifices annule quoi? Les ablutions. Ou du sperme, ou Allah yasahim al-haq, on est en cours de fiqh ici, il n'y a pas de... on pourra poser la question si tu veux, Inch'Allah. Barakallahu fik. Comme on a... Cheikh dit ici, en fait, regarde, les deux orifices, toute chose qui sort de ces deux orifices, d'accord, elles annulent les ablutions. Concernant le frère, il pose la question, c'est une question de fiqh importante parce que ça touche beaucoup de gens, il ne faut pas croire. Sur les hémorroïdes, eh bien, moi je préfère poser la question parce que je n'ai pas de science là-dessus, Inch'Allah, et tu me rappelleras, Inch'Allah, la prochaine fois de. Ça va, Inch'Allah? Fika barakallah. C'est un cours de dîn, on ne peut pas rapporter des choses de notre tête sans dalil. D'accord? Donc, on va regarder là-dessus. Et on se limite donc ici à quoi? Parce qu'on est dans quoi? Les excréments, l'urine, ou un gaz, du sang, du. Il a dit, est-ce qu'on peut appeler un gaz ou quoi? Un vent? Ou du sperme, ou du liquide, ce qu'on appelle préspermal. C'est quoi? Ce qu'on appelle madi. Vous connaissez tous le madi. C'est quoi? C'est le liquide en fait qui lors des rapports conjugaux, en tout cas des préliminaires, c'est quoi? C'est le liquide qui vient avant en fait. D'accord? Et c'est un liquide, attention, qui est najis, contrairement au mani, qui est pur. Le sperme, si tu en as sur toi, et que tu pries, ta prière elle est valable. Tandis que le madi, c'est najis, c'est impur, tu dois le retirer, tu dois le laver. D'accord? Évidemment, comme le hadith a rapporté, quand le professeur Zem priait, qu'Aïcha lui a, le professeur Zem il avait. Vous ne connaissez pas le hadith, non? Du sperme séché, Annie, sur son kamis. Aïcha, pendant qu'il priait, elle lui a frotté, Annie, son vêtement. D'accord? C'est ce qui prouve que le professeur Zem n'a pas arrêté la prière. C'est ce qui prouve que c'est pur. D'accord? Ça va? Il faut faire attention dans le shara ici, dans le fiqh, il y a une différence entre tahir et mutahir. Une chose peut être pure, mais pas purifiante. Du coca, c'est pur. C'est purifiant, tu peux faire des ablutions avec. Oui. Donc c'est vraiment faire attention, il faut être très précis dans le fiqh. Et on va se limiter ici à ce qu'a dit le shir. Il a dit, ou toute autre chose. Donc une de ces choses-là, ou toute autre chose qui sort parmi des deux orifices. D'accord. Et le titre ici est très générique. Al-kullu kharij min as-sabilin. Ay kullu kharijin min as-sabilin. Tout ce qui sort des deux orifices, eh bien c'est quoi? C'est annulation des ablutions. Donc tu dois faire tes ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans la traduction approximative, Allah n'accepte pas la prière de quelqu'un qui a annulé ses ablutions. C'est-à-dire qui a ahdatha, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Le hadith est rapporté par le Bukhari numéro 6954 et Muslim numéro 537. Évidemment, si on donne ces références toujours, c'est pour vous motiver à aller voir dans Fath al-Bari, en voir dans le Sharh al-Qastallani, Irshad Sari, aller voir dans Sharh al-Nawawi, Sahih Muslim, al-Minhaj, aller voir dans Sharh al-Qadi Iyad, sur Sahih Muslim, etc. D'accord? D'après Abu Huraira, radiallahu anhu arda. Deuxième parmi les annulations de l'islam, des ablutions, Afwan. C'est quoi? والثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? اختلف العلماء في الدم الخارج من غير السبيلين. هل ينقض الوضوء أو لا؟ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم نقض الوضوء به لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى حصول النقض بما كان كثيرا فاحشا منه. وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى هنا وهو أخذ بما فيه الاحتياط والخروج من الخلاف انظر المغني المجلد الأول ومجموع فتاوى لشيخ بن باز رحمه الله تعالى مجلد العاشر وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء المجلد الخامس. Donc qu'est-ce que nous dit ici le Cheikh? Deuxième parmi les annulations des ablutions, c'est ce qui sort impur du corps, si on veut traduire de manière littérale, et il explique ici le shir en disant, les savants ont divergé sur le sang qui sort d'autre part que des deux orifices. Al-kharij min ghayri sabilin. Pourquoi? Parce que celui qui sort des sabilin, des deux orifices, il annule ou il n'annule pas? Il annule, naam. Et celui qui sort des deux orifices, il y a quoi? Il y a divergence, naam, il y a irtilaf là-dessus. Certains, donc ils ont divergé entre deux avis. Annulent-ils les ablutions ou pas? certains gens de science ont l'avis que cela n'annule pas les ablutions. Pourquoi? C'est quoi leur dalil? Eh bien, tout simplement qu'il n'y a pas de dalil. Que rien n'a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui indiquerait cela. D'autres ont dit que cela annulait si le sang est en grande quantité, en immense quantité. Fahish, il a dit. Hein? D'accord? Et cela a été rapporté de certains compagnons, radiallahu anhu arda, et certains de leurs successeurs, tabi'oun. Et c'est l'avis suivi par Cheikh Mohamed al-Wahhab dans ce livre. Ok? Et il a suivi l'avis de la prudence, encore une fois, et qui fait sortir la divergence. Et voir encore Al-Mourni, volume 1, page 247, et la compilation de Fatawa de Cheikh Ben Baz, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, tome 10, page 159. Et la compilation des Fatawa de ce qu'on appelle l'Ejna Da'ima, hein, l'Assemblée permanente pour la Fatwa, tome 5, page 261. D'accord? Donc l'avis suivi par Cheikh al-Wahhab ici, donc, c'est quoi? C'est que le sang, en grande quantité, quoi? Eh bien, il annule les ablutions. La troisième annulation parmi les annulations des ablutions, zawal al-aqli. ينتقد الوضوء بزوال العقل بجنون أو سكر أو إغماء أو نوم مستغرق أما إذا كان النوم نعاسا لا يذهب معه الإحساس كان يكون جالسا أو قائما فحصل له نعاس فخفق رأسه ثم تنبه فإن ذلك لا ينقض الوضوء فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون ولفظه عند أبي داود كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون وهذا يدل على أن زوال العقل ليس حدثا بل هو مظنة للحدث ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وكاء السهي العينان فمن نام فليتوضأ رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسنده حسن وانظر إلى رؤى الغليل وقد نقل تحسينه عن النووي المنذري وابن الصلاح. Qu'est-ce que nous dit ici le Cheikh dans la troisième annulation, pour l'annulation des ablutions? La perte de la raison. Les ablutions sont annulées par la perte de la raison occasionnée par la folie ou l'état d'ébriété, l'évanouissement ou le sommeil profond. On va voir pourquoi on a dit profond. Tandis que si le sommeil est léger, ce qu'on appelle un nu'as, hein, de telle manière à ce qu'il ne fasse pas perdre la perception des choses. Comme dormir assis ou debout. Comme celui qui est somnolent et dont la tête, on appelle piquer de la tête, comme la tête pique, puis se ressaisit. Cela n'annule pas les ablutions. Muslim, rahimahullah, a rapporté dans son authentique, d'après Anas, qu'il a dit, les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ardahum, dormaient puis priaient sans faire leurs ablutions. Comment est-ce qu'on va comprendre ça? Ils dormaient et priaient sans faire leurs ablutions. On va voir dans l'autre riwaya. Et la version rapportée par Abu Daoud, numéro 200, les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, attendaient Al-Isha à tel point qu'ils piquaient du nez de fatigue puis priaient sans faire leurs ablutions. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils étaient là en attendant l'Aïcha, et qui quoi hein? Le sommeil le prenait, il piquait du nez, il se ressaisissait à chaque fois en attendant la prière, et donc c'était un sommeil léger qui ne faisait pas perdre la perception, et on va encore mieux le comprendre dans un autre hadith qui arrive après. Ceci indique quoi? Que la perte de la raison n'est pas hadith. Attention, mais c'est ce qui est à l'origine du hadith. Pourquoi? Parce que si tu dors, c'est pas ça qui te fait perdre tes ablutions, mais c'est ce qui peut amener quoi? À ce que tu ne sens pas que tu perds tes ablutions, pas avec. Autre chose. Donc si tu émets un gaz ou que tu... pendant ton sommeil profond, tu ne peux pas le sentir. D'accord? C'est juste ou pas ce que je dis? Ceci nous est indiqué également par la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça pour traduire ce hadith, on a dû aller voir dans les explications. وِكَا أُسَّهِي الْعَيْنَانِ فَمَنَّامَ فَلْيَتَوَضَّعَ. Ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud, numéro 203. D'après une narration d'Ali, radiallahu anhu. Et sa chaîne de transmission est jugée Hassan. Voir Irwa al-Ghalil de Cheikh al-Albani, numéro 113. Il a été rapporté que An-Nawawi, rahimahullah, Al-Mundiri, rahimahullah, Ibn Salah, rahimahullah, l'ont jugé Hassan. D'accord? Alors, traduction du hadith. Là, je suis obligé de faire du mot à mot et après, on va voir avec le sens du. C'est quoi al-wika? Le prophète dit wika al-sahi al-aynan. Wika al-sahi al-aynan. Al-wika, c'est le cordon, la courroie avec laquelle on noue quelque chose. D'accord? Al-sahi, c'est l'un des noms pour le derrière. Hein? Al-sahi, c'est l'un des noms pour le derrière. D'accord? Al-aynan, ce sont les. En arabe, on appelle ça muthanna, les deux yeux. Les yeux, tout simplement, mais en arabe, les deux yeux. Hein? Qui expriment ici, évidemment, dans ce hadith, l'état d'éveil. Alors, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith? Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce hadith? Eh bien, le sens du hadith est donc que le fait d'être éveillé te préserve de faire sortir quelque chose de cet orifice sans le savoir. Et que celui qui dort fasse ses ablutions. C'est-à-dire, comme le cordon, hein, la courroie, elle empêche le contenu de sortir d'une outre, hein, un récipient, une outre, d'accord, hein, eh bien, les yeux ouverts, c'est-à-dire ton état d'éveil, t'empêche de faire sortir un gaz sans en être conscient. Hein? Et si vous voulez voir plus de détails là-dessus, revenez à Un al-Ma'boud, hadith numéro 203. Page 131, volume 1. Et je vous conseille de toute façon de revenir à cette explication de ce hadith-là. Pourquoi? Parce que Al-Abadi dans Al-Ma'boud, il a fait quoi? Il a rapporté les 9 avis différents sur est-ce que le sommeil annule les ablutions ou pas. Donc pour ceux qui veulent plus de détails, qui retournent à Al-Ma'boud, Sharh Sunan Abi Daoud. D'accord? Et évidemment, la référence que j'ai donnée, c'est de mon édition qui est en 2 tomes. Il y a des éditions qui sont beaucoup plus volumineuses. Et avec ça, on a fini quoi? La troisième parmi les annulations de... est-ce que c'est clair pour ça? Donc s'il y a un sommeil léger, et subhanallah, chaque vendredi, hein, on voit, hein, c'est vrai. Hein, y a beaucoup de frères, subhanallah, qui... Et c'est important de savoir ça. Parce que tu as la Jumu'ah, tu t'es levé très tôt le matin pour aller travailler, après le Fajr, etc. Hein, surtout en hiver, il n'y a pas beaucoup de temps pour dormir. Hein, maintenant, ça va déjà un peu mieux. Tu te lèves tôt le matin, et tu viens le Jumu'ah. C'est un moment de fatigue, subhanallah, à ce moment-là. Tu vois beaucoup de frères ici qui piquent du nez, etc. Et alhamdoulilah, c'est important de savoir ça. Hein? D'accord? Il s'allongeait juste sur le côté, comme ça. Il s'allongeait. Non, le hadith, c'est s'allonger. Reviens, on lave dans l'arabe, tu vas voir que c'est s'allonger. La quatrième parmi les annulations des ablutions, c'est quoi? Al-Rabi' rahmukullah, mas'ul mar'ati bi shahwatin. Hada alladhi ikhtarahu al-Sheikh, ahad al-aqwali thalathati fi al-mas'ala, wal-qawl al-thani an yanqud mutlaqan, wal-thalithu annahu la yanqud mutlaqan sawa'an kana bi shahwatin aw bi ghayri shahwa. إذا لم يخرج مع الشهوة شيء وهذا القول أصح الأقوال لعدم ثبوت ما يدل على النقد به وانظر فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله عليه المجلد العاشر. Donc vous voyez ici que quoi que le quatrième c'est aussi très court mais c'est également très important, c'est le fait de toucher une femme avec désir. Et c'est l'avis que Cheikh Mohamed Al-Wahhab a choisi ici. Et c'est l'un des 3 avis existants dans le fait d'avoir quoi? Un contact avec une femme. D'accord? Donc le premier avis c'est quoi? C'est de toucher avec désir, avec passion, comme cela. Le deuxième avis, c'est que le simple contact avec une femme sans désir annule. Le simple contact. Hein? Le troisième, c'est qu'il n'annule pas les ablutions, que ce soit avec ou sans désir, à condition que s'il y a désir, rien ne soit sécrété. C'est-à-dire que tu n'es pas un liquide. Hein? Comme il m'a dit par exemple qu'il pourrait sortir, évidemment parce qu'il m'a dit en lui-même et quoi? Et bien, il annule, il annule surtout. Et non seulement il est impur, mais il annule. Parce que toi tu peux avoir tes ablutions par exemple et avoir du mahdi sur ton vêtement. Tu ne dois pas faire tes ablutions pour autant, tu vois. C'est impur, tu dois le laver, mais tu ne dois pas faire tes ablutions pour autant. Tandis que si du mahdi sort de toi, ben là tu dois faire tes ablutions, d'accord? Non, les ablutions. Ouais. Le sperme rosna. D'accord? Donc, qu'est-ce que je disais? Que, à condition que rien ne soit sécrété à cause de ce désir. Et ce dernier avis est le plus fort. Donc, Cheikh Al-Abbad, qu'est-ce qu'il nous fait ici? Un tarjih. Donc, premier avis, toucher avec désir. Deuxième avis, toucher tout simplement. Troisième avis, ça n'annule pas, que ce soit avec désir ou sans désir, à condition que rien ne soit sécrété. Je donne Madi à titre d'exemple. Parce que tu peux toucher une femme et avoir carrément peut-être du sperme qui sort. Hein, ça peut arriver, je ne sais pas, tu vois. Et bien, c'est aussi une sécrétion. D'accord. Mais évidemment, là, tu dois faire carrément le lavage, le rose. Et ce dernier avis est le plus fort, car aucune preuve n'établit le fait de toucher une femme, que le fait de toucher une femme annule les ablutions. D'accord. Donc, c'est quoi la preuve? Eh bien, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Donc, celui qui dit que le fait de toucher une femme, ça annule les ablutions, il nous donne un délit. D'accord. Maintenant, si le fait de toucher une femme, ça implique une sécrétion, ben là, on a d'autres dalils en tant que tels pour les sécrétions. Ça va, c'est clair pour tout le monde, ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Comment? Non, non, l'avis que Cheikh Al-Mahsal Abad a rapporté ici a rendu le plus fort, c'est que tu touches avec désir ou sans désir. Tu peux toucher une femme sans le faire exprès, c'est pas, tu vois, ou pour. Non, le Cheikh a dit avec désir ou sans désir. Exactement. Ça va? Je répète la phrase qu'il a dit, Cheikh, c'est bon? Donc, Cheikh a dit ici qu'il n'annule pas les ablutions, que ce soit avec ou sans désir, à condition que s'il y a désir, rien ne soit sécrété à cause de ce désir. Ça va? Et ce dernier avis est le plus fort, car aucune preuve n'établit le fait de toucher une que le fait de toucher une femme annule les ablutions. C'est important de savoir ça, très important. Voir Fatawa de Cheikh Ibn Baz, pour ceux qui veulent plus de détails, tome 10, de page 132 à page 138. Cinquième parmi les annulations, les huit annulations de wudu, c'est quoi le Cheikh nous dit ici? Al-Khamis. مسو الفرج باليد قبلا كان أو دبورا وهذا الذي اختاره الشيخ هو قول جمهور العلماء هو الصحيح إذا كان المس بدون حائل وسواء كان مس فرجه أو فرج غيره أو فرج غيره وسواء كان الممسوس صغيرا أو كبيرا من الأحياء أو الأموات لحديث بصرة بن صفوان رجل عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح وانظر إرواء الغليل وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء المجلد الخامس. Donc qu'est-ce que nous dit ici le Cheikh, hein? Et le Cheikh ici va suivre un avis que je tiens pas, mais je veux m'éviter à l'avis du Cheikh. C'est quoi? C'est la cinquième, c'est le fait de toucher le sexe. Alors le Cheikh ici dit par devant ou derrière, d'accord? Et pour être honnête, j'ai pas compris exactement ce qu'a dit le Cheikh ici. Donc on va laisser ça entre parenthèses sur le par devant ou par derrière, par devant ou derrière. J'ai une idée, mais je préfère pas me prononcer jusqu'à demander à poser la question au Cheikh lui-même, Inch'Allah. Et c'est l'avis choisi par le Cheikh, et c'est l'avis de la majorité des savants. D'accord? Et c'est l'avis juste si le sexe est touché directement de la main, pas à travers quelque chose. Un ha'il, ça pourrait être par exemple un qamis. Ça peut être un pantalon. Les chiffres ici, mais justement, c'est ça. Pardon. Hein, c'est pour ça que je ne voudrais pas trop rentrer, tu vois. Mais ici, je vais mettre à l'avis du chiffre, c'est quoi? C'est que tu le touches directement avec ta main. Ça va? C'est que, par exemple, tu ne le touches pas à travers un pantalon, ou tu ne le touches pas à travers un kamis, ou tu ne le touches pas à travers, je sais pas, un izar, ou quelque chose comme ça, d'accord? C'est que tu le touches sans ha'il. À partir du moment que tu le touches sans ha'il, juste ça, que tu le touches sans ha'il de ta main, tu refais tes ablutions. Ça va? D'accord? Moi, personnellement, j'ai l'avis que c'est avec désir. Quand tu le touches avec désir. Pourquoi? Parce que Charles Albani nous dit que c'est l'avis qui va avec les règles générales de la religion sur la facilité de la religion. Parce que tu peux, qadr Allah, tu peux le toucher, hein, sans même le vouloir. Hein, et donc, l'avis le plus fort. En fait, ça n'a jamais entre l'ahadith. D'accord? Parce que dans un hadith, le prophète Hassan, il a dit à un compagnon, il a dit, hein, et je voudrais insister que j'avais dit qu'il n'y a pas de questions pendant les cours. Hein, que c'est pas pour pas permettre, mais c'est pour m'éviter à moi de répondre, hein, dans des messages que je connais pas, d'accord. S'il y a des messages qu'on peut les noter, Inch'Allah, et poser un cheikh, Inch'Allah, ce n'est pas un problème, d'accord. C'est que quoi? C'est que le prophète Hassan, dans un sahabi, lui a répondu, il a dit, ce n'est qu'une partie de toi-même. Et un autre dans un autre cas, il a dit quoi? Il a dit, fais tes ablutions. C'est que celui qui touche son sexe fasse ses ablutions. C'est le hadith qu'on rapporte ici. Eh bien, les ulama, ils ont divergé. D'accord? Ils ont divergé. Ils ont dit, certains ont dit, en fait, en regroupant les textes, et c'est la vie sur l'abed ici, eh bien, c'est qu'une fois, il a dit, ce n'est qu'un membre de toi. Dans un autre hadith, il dit, tu fais tes ablutions. Eh bien, en fait, c'est quand on le touche directement, sans un ha'il. Quelque chose qui est entre toi et le sexe. D'accord? Et d'autres savants, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ils vont dire, c'est quand tu le touches avec désir. D'accord? Avec passion. Eh bien, à ce moment-là, ça annule tes ablutions. Donc c'est quoi, c'est? Ils ont fait un ijtihad pour regrouper entre les textes. D'autres, ils ont compris ça comme ça, d'autres comme ça. À ce moment-là, chacun, il voit comment la kinition se limite à la vie de Cheikh Al-Masih Al-Abbad. C'est quoi? C'est que si tu le touches directement, pas à travers quelque chose, eh bien quoi? Tu fais tes ablutions. D'accord? Et Cheikh nous dit ici, la preuve de cela, mais c'est quoi? C'est le hadith que je viens de vous dire de Basra bin Safwan, que le prophète Sassam a dit, celui qui touche son sexe, qu'il fasse ses ablutions. D'accord? Rapporté par At-Tirmidhi, numéro 82, et d'autres, et a dit, c'est-à-dire At-Tirmidhi, que c'est un hadith hasanun sahih. Voir Irwa al-Ghalil, numéro 116, et Fatawa du Comité Permanent pour la Fatwa, Fatwa al-Lajna al-Da'ima, volume 5, page 263 à 266. Donc pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur la Mas'ala, qui reviennent à ça, qui reviennent au livre de Cheikh Al-Albani dans le Fiqh, et qui reviennent à Majma' Fatawa Cheikh Ibn Baz, qui reviennent à Irwa al-Ghalil justement dans le Fiqh, numéro 116, et vous allez voir, Inch'Allah, les différents avis. Pour ceux qui veulent, qui sont capables de voir les différents avis, si on limitez-vous à ce qu'a dit Cheikh Al-Masih Al-Abbad, etc., Alhamdulillah, c'est un avis qui est, Inch'Allah, de la précaution et un avis d'un grand savant, Hafidhahullah Ta'ala. Sixième parmi les annulations des ablutions, c'est quoi? C'est aklu lahmi. Ah oui, il y a un truc ici qui est peut-être passé au travers, c'est que ce soit ton sexe ou le sexe de quelqu'un d'autre. Et ça, je l'ai lu en arabe et j'ai oublié de le traduire. C'est quoi? C'est qu'il soit gros, âgé ou jeune. Un est grand ou petit. Qu'il soit mort ou vivant. D'accord? C'est-à-dire que si tu touches ton propre sexe ou le sexe de quelqu'un d'autre, ou que si tu touches d'un enfant ou d'un adulte, d'un mort ou d'un vivant, Cheikh dit, tu touches, tu fais tes ablutions. Parce que c'est vrai, ça peut arriver quand tu fais un lavage d'un mort. D'accord? Normalement, tu utilises évidemment. Exactement. D'accord? C'est des choses importantes à connaître. D'accord? Donc, ici, quoi? Le Cheikh dit quoi? Dit, tu fais tes ablutions. Et alhamdoulilah que je m'en suis rappelé. Donc, ici, le Cheikh dit quoi? Dit, qu'il soit un adulte ou un enfant, un mort ou un vivant, le tien ou celui d'autrui, tu fais quoi? Tu fais tes ablutions. D'accord? Et Cheikh ici dit, contact direct, pas à travers quelque chose. Ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Masih Al-Abbad. Mustapha, il va m'amener des problèmes. À travers un ha'il, ça peut être n'importe quoi. D'accord? Quand ils disent directement, en fait, c'est avec la exactement, avec ta main, directement, toucher directement, de la main. En français, on dirait toucher de la main. D'accord? Sixième annulation, parmi les annulations des ablutions, c'est Aklou Lahmil Jazour. Ça, c'est encore un point, une grande divergence entre les savants. C'est le fiqh. C'est le fait de manger la viande de chameau. Il dit, frère, il va dire, mais en quoi ça nous concerne? Mais je vous assure que c'est le fiqh. Ça sert déjà à savoir pour savoir, ça sert pour pouvoir le pratiquer au cas où, et j'ai déjà été dans le cas, quand tu vas dans le sud du Maroc, dans le Sahara, etc., et que tu te retrouves en train de manger de la kefta de chameau, et bien, si tu ne connais pas le hukm, je vois des frères qui sourient parce qu'ils ont déjà été dans ce genre d'endroit-là, et si on te fait zrig au Sahara, quand on offre du lait battu ou du lait de chameau, est-ce que tu fais tes ablutions ou pas? Est-ce que c'est considéré comme de la viande ou pas? D'accord? C'est des messages, il fait rien important à connaître. D'accord? Et puis aussi pour pouvoir répondre aux gens s'ils posent la question. D'accord? Donc il ne faut pas croire qu'il y a des messages qui sont moins importantes que d'autres et qui ne touchent pas, même s'ils ne touchent pas directement dans la vie de tous les jours ici. D'accord? Donc la sixième, c'est quoi? C'est, on a dit, c'est quoi? c'est manger la viande de chameau. Il y a deux avis chez les savants. Donc, Cheikh nous dit quoi ici? في الوضوء من أكل لحم الإبل قولان للعلماء. قولان للعلماء. أحدهما قول الجمهور وهو أنه لا يتوضأ من أكل لحومها. والقول الثاني وجوب الوضوء من ذلك وسواء كان اللحم نيئا أو مطبوخا. وأما ألبانها ومرق لحمها وكذلك الطعام الذي طبخ من لحمها أو مع لحمها فإن استعمال ذلك لا ينقض الوضوء. ويدل للوضوء من أكل لحوم الإبل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. وقال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. والحديث أخرجه مسلم. دوزيام بروف الحديث الثاني وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. والحديث رواه أبو داود وغيره وإسناده صحيح. Et après on va continuer, Inch'Allah, on va d'abord point par point parce que c'est un point un peu long et qui est très technique. Donc ici, qu'est-ce que nous dit le Cheikh? Il dit qu'il y a deux avis chez les savants concernant le fait de faire ces ablutions après avoir mangé de la viande de chameau. L'un des avis, c'est celui de la majorité, le Jumhur, que on mange de la viande de chameau, si on mange de la viande de chameau, on ne doit pas faire les ablutions. On ne doit pas faire les ablutions. Le deuxième, c'est l'obligation de faire ces ablutions que la viande soit cuite ou crue. D'accord? Tandis que son lait et la sauce de la viande, ainsi que la nourriture qui est cuite avec sa viande, eh bien son utilisation n'annule pas les ablutions. D'accord? Ça va? Les ablutions après avoir mangé la viande de chameau est indiquée dans le hadith de Jabir ibn Samurah, qu'Allah l'agré, qu'un homme a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dois-je faire, regarde la question comme elle est claire de cet homme-là qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question, que dois-je faire mes ablutions après avoir consommé de la viande ovine, c'est la viande des moutons ou des brebis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu veux fais tes ablutions et si tu veux ne les fais pas. D'accord? Il dit, dois-je faire mes ablutions après avoir consommé de la viande de chameau? Il dit oui. Et il fit ses ablutions après avoir consommé de la viande de chameau. Il dit, puis-je prier dans l'enclos des moutons? Il dit oui. Il dit, puis-je prier où le chameau baraque, à l'endroit? Il dit non. Hein? Je vois les frères qui ont un peu d'expérience vis-à-vis de Sahara, etc. C'est quelque chose qui est connu. Hein? D'accord? Dans ces régions-là, ils ne prient pas à l'endroit où le chameau baraque. On va voir pourquoi en fait. Hein? Parce que le chameau, comme le rapporte dans le hadith, certains ulama ont compris que c'est le chameau lui-même qui est un démon. Et d'autres ont compris que c'est le chameau, en fait, il fait l'acte des démons. Parce qu'il est turbulent. Il peut te porter préjudice, il peut te déranger pendant ta prière. Tandis que les ovins, les moutons, les brebis, ils sont quoi? Ils ont une sakina, ils sont calmes. Hein? Et c'est pour ça que le prophète a dit de prier là, parce qu'il y a une baraka, il n'y a pas de problème. D'accord? On va voir ça dans la suite du hadith. Et dit, donc il dit non. Hein? Et le hadith l'a rapporté par Muslim numéro 360. Et je vous conseille vivement de voir l'explication de l'imam Nawawi sur ce. Elle est assez courte dans ce chapitre-là et elle est très intéressante dans le Minhaj fi Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj. Il y a un autre hadith aussi qui dit le hadith d'Al-Barra ibn Azib. Qu'est-ce qu'il a dit, radiallahu anhu arda? Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut questionné sur les ablutions après avoir mangé de la viande de chameau. Il dit, faites vos ablutions. Il fut questionné. Non, faites vos ablutions, pourquoi? Pour en avoir mangé, évidemment. Fut questionné sur les ablutions après avoir mangé de la viande ovine, la viande des moutons et des brebis. D'accord? Il dit, ne faites pas vos ablutions pour cela. Il fut questionné ensuite sur la prière à l'endroit où le chameau baraque. Il dit, n'y priez pas, car ce sont des démons. Il fut questionné sur la prière dans les enclos d'ovins. Hein? Il dit, priez-y, car ils sont une bénédiction. Fa'innaha baraka. Le hadith l'a rapporté par Abu Daoud numéro 184 et d'autres, et sa chaîne de transmission est authentique, sahih. 184. Si vous voulez, maintenant on va sortir un peu du livre, on va aller voir dans Ul Ma'boud. Hein? Quand j'ai regardé dans l'explication de Shah Sunan Abi Daoud, Ul Ma'boud, il nous dit la raison pour laquelle il nous a été interdit de prier dans les endroits où les chameaux baraquent, car les chameaux agissent comme des démons et des djinns. Car leur mal est grand et il déconcentre celui qui est en état de prière, le prieur. D'accord ? Certains savants ont dit que le chameau eux-mêmes étaient des démons. Et certains ulama, ils ont dit en fait qu'ils avaient les actions des démons. D'accord ? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit démons. Et Allah alim, comme il a dit le cheikh lui-même ici, il a dit Allah alim avec exactement ce avec quoi a voulu ici dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la kulli hal, on ne peut pas prier là. D'accord ? Tandis que les ovins sont calmes et une bénédiction, comme dans le rajout de l'imam Shafi'i. Il a dit Sakina wa Baraka. D'accord ? Les ovins sont faibles et calmes et ne portent pas atteinte aux prieurs. D'accord ? Vous avez compris maintenant pourquoi on peut prier dans les enclos des ovins et pourquoi on ne peut pas prier dans les endroits où les chameaux baraquent, d'accord? Et Shir continue en disant un point important ici, c'est quoi? C'est un point qui touche aussi l'usul, c'est quoi? وَالْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْوُجُوبِ وَفِي الْوُضُوءِ الْوُضُوءُ الشَّرْعِي فَلَا يُحْمَلُ الْأَمْرُ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ وَلَا الْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ اللُّغَوِي الَّذِي هُوَ غَسْلُ الْيَدَيْنِ وَالْمَضْمَضَةِ لِعَدَمِ الصَّرِفِ عَنِ الْأَصْلِ وانظر إرواء الغليل لشيخ الألباني رحمه الله وذكر النووي في شرح صحيح مسلم خلاف العلماء في الوضوء من لحم الإبل وقال قال أحمد بن حنبل وإسحاق ذرهويه في هذا أي الوضوء من لحم الإبل حديثان حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه وانظر مجموع فتاوى لشيخ بن باز رحمه الله عليه المجلد العاشر وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء المجلد الخامس لو فترمني لاتسو إن شاء الله بتدخل جدوي. C'est quoi? Peut-être qu'on aura le temps de terminer. La base, et je vous demande ici d'être concentré parce que ça touche dans le usul aussi. La base dans le verbe impératif. Fatawadda'u, il a dit. Hein? C'est un verbe impératif, c'est l'obligation. Et la base dans les ablutions. Ce que je disais ici, c'est que la base dans le verbe impératif, c'est l'obligation, et la base dans les ablutions, ce sont les ablutions légiférées. On ne peut donc pas comprendre de l'ordre que c'est préférable, et on ne peut pas comprendre des ablutions que ce sont les ablutions dans la linguistique, c'est-à-dire le lavage des mains et le rinçage de la bouche. Donc quoi, quand on a le mot wudu, on doit comprendre les wudu dans la sharia, dans le sens légiféré. Et quand on parle de verbe impératif, on doit comprendre que c'est obligatoire et pas préférable mustahab, sauf si on a un dalil. C'est ce qu'a dit le cheikh ici. car aucune preuve ne permet de sortir de la base et de comprendre cela. On ne peut pas faire khuruj min al-asl, tu vois. Pourquoi? Et comprendre que non, en fait, ce n'est pas le wujub, c'est l'istihbab. Sauf s'il y a un dalil qui prouve cela. Comme le wudu. Quand on parle de wudu, on parle de wudu shara'i, parce que c'est une preuve qui nous montre en fait que non, c'est que le wudu l'ughawi. C'est quoi en fait ici? C'est le fait de laver les mains et la madmada. Et voir Hiro al-Ghalil, numéro 118 de Cheikh l'Albani. Et Nawawi a rapporté dans l'explication de l'Authentique de Muslim, tome 4, page 49, la divergence des savants concernant les ablutions à cause de la viande de chameau. Et il dit, Ahmed ibn Hanbal et Ishaq ibn Rahawi ont pour cela, c'est-à-dire les ablutions de la viande de chameau, deux hadiths. C'est le hadith de Jabir qu'on a vu, et le hadith d'Al-Barra ibn Azib. Et cette école a les preuves les plus fortes, même si la majorité des savants ont l'avis contraire opposé. Et pour ceux qui veulent plus de détails, voir Majmou' Fatawa de Cheikh Ibn Baz, volume 10, page 156 à 158, et les Fatawa du comité permanent Fatawa Jnad Da'ima, l'Ifta, volume 5, de page 273 à page 277. Et on va terminer là-dessus, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui. On va, donc, pour vraiment terminer ce point-là ici, c'est quoi? C'est qu'on fait donc quoi, les ablutions lorsqu'on mange la viande de chameau, mais tout ce qui concerne la sauce, ce qui est le lait, ce qui est cuit avec la viande de chameau, eh bien, même si on peut les consommer, et on ne doit pas faire les ablutions à cause de cela, d'accord? Allahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum, ikhwan.